Merci pour cette introduction et puis pour l'invitation à parler à ce séminaire. Donc, je vais vous parler de sémantique, de langage de programmation probabiliste et de tout ça à la lumière de la logique linéaire. Donc, le plan, ce sera de la sémantique. On parlera un petit peu de la sémantique des programmations, de la programmation fonctionnelle et probabiliste. Et puis, à partir de la logique linéaire, on ira vers un langage qu'on appelle call by push value et une version probabiliste. Alors d'abord, une petite introduction à la sémantique. Donc on a l'habitude, quand on fait des langages de programmation, de distinguer la syntaxe dans la façon dont on écrit les programmes. Donc là, je vous ai mis un petit exemple avec la factorielle. Et puis la sémantique, qui va nous décrire ce que les programmes calculent et comment ils vont le calculer. Donc on a deux types de sémantique. La sémantique opérationnelle qui a été introduite par Landine et qui va décrire un programme par son exécution, comment il va, les différentes étapes d'exécution jusqu'à la valeur finale. Et puis on va avoir la sémantique dénotationnelle qui va interpréter les programmes comme des fonctions qui calculent et qui peuvent avoir un effet sur la mémoire. Donc ça, c'est la sémantique dénotationnelle, ça a été introduit par la rencontre entre Strachey et qui voulait donner une signification au programme, et un mathématicien, et Scott, qui lui a donné un petit peu les outils pour faire ce qu'il avait en tête. Donc typiquement, notre factoriel, on va l'interpréter comme une fonction des entiers vers les entiers, qui prend un entier, qui nous renvoie la factorielle de l'entier. Donc la sémantique dénotationnelle, ça va nous donner des informations à la fois sur la relation entre l'entrée et les sorties du programme, mais ça va nous donner aussi des informations plus intentionnelles comme le temps d'exécution d'un programme ou d'autres propriétés qu'on a envie d'étudier. Alors, comme M. Jourdain, qui faisait de la pro sans le savoir, toute personne qui fait de la programmation fait un petit peu de la sémantique, même s'il ne le fait pas explicitement. Pourquoi ? Parce que la sémantique, c'est ce qui va nous permettre de donner une signification au programme, donc plutôt en utilisant des mathématiques. Et le but, c'est d'avoir des définitions rigoureuses qui vont être indépendantes des détails d'implémentation, indépendantes de la syntaxe qu'on va pouvoir choisir. Et puis, ça va être aussi de fournir des objets mathématiques qui permettent de prouver les propriétés des programmes. Alors, il y a un troisième volet qui est qu'on va se servir de la sémantique dénotationnelle comme un guide. C'est-à-dire que les propriétés qu'on va voir dans les interprétations mathématiques, on va avoir envie de les transporter dans les langages de programmation et de comprendre leur contenu calculatoire. Donc ça va donner lieu à l'introduction de nouvelles constructions, à la fois en logique et puis dans les langages de programmation. Alors ici, on parle de Curie-Ward, hein, la correspondance entre le lambda calcul simplement typé, la logique intuitionniste. Il y a aussi un volet sémantique à cette correspondance, qui est la correspondance de Lambeck. Alors cette fois, on n'a pas une correspondance, un isomorphisme exactement, mais on va avoir une correspondance entre la bêta-réduction, l'égalité qui découle des programmes qui découlent de la bêta-réduction, et puis l'égalité des morphismes dans les catégories cartésiennes fermées. Alors, en sémantique catégorique, on va interpréter un type par un objet mathématique qui va avoir une certaine structure. Et puis, on va interpréter un programme, donc M, qui est typé dans un environnement, par un morphisme qui va aller de l'interprétation de l'environnement vers l'interprétation du type de sortie. Donc là, on voit apparaître un produit cartésien. C'est pour ça qu'on regarde des catégories cartésiennes. Puis on va aussi avoir besoin d'adjoindre à ce produit cartésien un objet démorphisme qui va nous permettre d'interpréter l'implication ou le type flèche. Donc notamment, c'est l'adjonction entre l'objet démorphisme et le produit cartésien, c'est ce qui va nous permettre de parler de l'évaluation, de la curification. Alors, l'intérêt des sémantiques catégoriques, c'est à chaque fois qu'on a un nouveau modèle, plutôt que de reprouver que le modèle se comporte bien avec la réduction de notre langage, on va juste prouver que c'est bien une catégorie cartésienne fermée. Alors, quand on fait de la sémantique, on va utiliser souvent PCF. C'est un langage de programmation fonctionnelle typé qui a été introduit par Scott d'un point de vue logique et puis reformulé par Plotkin. Et donc c'est un langage de programmation un peu idéal où on a le lambda calcul simplement typé. On va avoir des constructions pour parler des entiers, donc de l'arithmétique. Une conditionnelle, donc là j'ai mis un test à zéro. Et puis un point fixe de terme qui nous permet de construire des programmes récursifs. Alors vous voyez que dans cette syntaxe, il n'y a pas d'affectation. C'est un point de vue purement fonctionnel. Alors la sémantique opérationnelle de ce langage, elle est en appel par nom. Ça veut dire qu'on va réduire ici l'application de l'abstraction directement comme ça. On ne va pas attendre d'avoir une valeur avant de la réduire. Et puis on le voit ici aussi, l'appel par nom, parce qu'on va passer au contexte que dans l'application à gauche. Alors la sémantique dénotationnelle de PCF, elle est fondée sur les catégories cartésiennes closes enrichies avec des constructions pour parler des entiers et de l'arithmétique qui lui est associée, et puis un ordre qui va nous permettre de parler de partialité. Parce que quand on rajoute un point fixe, par exemple, si je prends fixe de l'identité, de lambda xx, je vais obtenir un programme qui diverge. Donc j'introduis de la partialité dans mon langage, et cet ordre, l'ordre que je vais rajouter ici dans ma sémantique, va me permettre de parler de cette partialité, et puis aussi de définir la sémantique des programmes récursifs comme un plus petit point fixe. Alors il y a une première propriété qui est vraiment nécessaire quand on fait de la sémantique, c'est l'invariance de la sémantique. C'est dire que la sémantique est un invariant de la réduction de mon langage. Donc si M se réduit en M', alors la sémantique de M est égale à la sémantique de M'. Puis il y a une autre propriété qu'on a envie d'avoir, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même mieux si on l'a, c'est l'adéquation. Alors l'adéquation, elle nous relie la sémantique dénotationnelle avec la sémantique opérationnelle. Si j'ai un terme dont la sémantique c'est n, un programme dont la sémantique c'est n, alors il va calculer en un nombre quelconque d'étapes cet entier n. Alors il y a un dernier théorème qui est plus difficile à avoir, c'est la pleine adéquation. Alors la pleine adéquation, ça va nous parler d'équivalence observationnelle. C'est comment dire que deux programmes font la même chose. Pas seulement que. Enfin, qui font la même chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout contexte et pour toute valeur, si M se réduit dans ce contexte vers la valeur N, ben c'est équivalent à dire que N se réduit dans ce contexte vers la valeur N. Ils ont le même comportement. Et alors le théorème de pleine adéquation, full abstraction en anglais, il nous dit que l'égalité sémantique, elle caractérise l'équivalence observationnelle. Donc deux programmes ont la même sémantique si et seulement si ils se comportent de la même façon. Alors pour PCF, ça c'est un théorème qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a occupé les chercheurs pendant un bon moment. Donc la première sémantique de PCF, c'est les domaines de Scott et les fonctions continues. Mais dans cette sémantique, on a une fonction, le port, qui parle de parallélisme. C'est une sorte de ou parallèle. Et donc, le problème, c'est que PCF, ça permet d'écrire que des programmes qui sont séquentiels. Donc, on ne pouvait pas espérer la pleine adéquation. Alors ensuite, il y a Gérard Berry qui a introduit les DI domaines et les fonctions stables, qui permettaient de se débarrasser du ou parallèle et qui introduisait qui nous rapprochait de la séquentialité. Mais il y a encore du parallélisme dans ce modèle. Donc après, avec Gérard Berry et Pierre Lucurien, on a introduit le modèle des algorithmes séquentiels, qui là nous parle vraiment de séquentialité, mais qui n'est toujours pas pleinement adéquate. Et il fallait raffiner un petit peu les morphismes que l'on regarde pour obtenir un modèle pleinement adéquat qui est la sémantique des jeux. Je vois Gérard qui... ça va, bon, c'est validé. Donc, j'espère que je ne reformule pas trop l'histoire. C'est bon. Okay. Voilà, et donc avec la sémantique des jeux, on a obtenu un modèle pleinement adéquat. Ok, donc maintenant qu'on a parlé un petit peu des grandes questions en sémantique dénotationnelle, je vais vous parler de programmation fonctionnelle probabiliste. Alors, déjà quelques exemples de programmes. Donc on va prendre PCF et puis on va lui ajouter deux primitives. coin qui correspond au lancer d'une pièce équilibrée. Donc ça va être une construction qui va se réduire vers 0 avec probabilité 1/2 et vers 1 avec probabilité 1/2. Et puis on va rajouter aussi un sample qui est une construction qui va simuler une variable aléatoire uniforme que je note U. Et c'est une uniforme sur 0,1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité que quand j'échantillonne U, je retrouve quelque chose inférieur à X, c'est égal à l'intégrale de l'indicatrice de mon intervalle 0,1. Alors, quelle distribution probabiliste je peux simuler dans ce langage? Alors, je vais vous montrer une marche aléatoire sur N. Comment est-ce qu'on peut simuler une variable aléatoire discrète de loi uniforme sur 0,m? Comment est-ce qu'on peut simuler une variable aléatoire continue de densité exponentielle? Et puis, je vais vous montrer aussi l'implémentation d'un algorithme probabiliste qui résout un problème qu'on peut résoudre de façon déterministe, mais de manière un petit peu plus efficace. Alors d'abord, une marche aléatoire sur N. Donc, mon programme ici, c'est un programme récursif qui va commencer, donc il va faire N étapes d'une marche aléatoire. Donc, si N égale 0, ben, je vais commencer par 0. Et puis après, je vais lancer une pièce. Si je retrouve, la sortie c'est 0, alors j'ajoute 1. Et si c'est 1, alors j'ajoute moins 1. Et donc pour 2, je vais obtenir ça, etc. Je vais avoir quand je regarde au bout de n étapes, ce que je veux dire, c'est que ce programme, sa transition va représenter une marche aléatoire dans N. Alors maintenant, comment est-ce que je peux simuler une variable aléatoire discrète de loi uniforme sur 0m? Donc je vous rappelle, dans mon langage, j'ai PCF et puis j'ai juste coin, donc une pièce équilibrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par simuler une uniforme sur 0 de puissance L-1. Je vais utiliser la décomposition binaire de l'entier et puis N variables aléatoires identiquement distribuées qui sont juste des copies de coin. Et donc, si je prends cette somme, je sais que la loi, ça va être uniforme sur 0 de puissance N-1 et je peux tout à fait la coder dans mon langage. Donc, je prends un programme récursif. Si N égale 0, je renvoie juste coin. Et puis, sinon, je vais rappeler ma somme jusqu'à N-2 et puis je vais lui rajouter le dernier terme. Donc coin ici, il me représente un bit aléatoire. Alors à partir de là, je vais simuler une variable aléatoire uniforme sur 0m par une méthode qui est souvent utilisée en programmation probabiliste, c'est la méthode de rejet. Donc moi, je sais faire une uniforme sur 0 de puissance L-1, donc de puissance L-1, c'est la puissance de 2 juste après m. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder que les valeurs qui sont comprises entre 0 et m. Donc si ma distribution elle est uniforme là, elle est aussi uniforme si je regarde juste sur cette partie-là. Donc ça me donne quoi? Ben, l'uniforme, c'est je commence par échantillonner une variable aléatoire uniforme sur 0 de puissance N-1, et puis je ne vais garder que les valeurs qui sont inférieures ou égales à M. Alors, un troisième exemple, une variable aléatoire continue de densité exponentielle. Donc, j'ai sample qui simule une variable aléatoire uniforme sur 0,1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, pareil, une méthode classique en programmation probabiliste, c'est la transformée inverse. Donc, ce que je vais chercher, c'est une fonction qui est inversible, qui est croissante, telle que t de ma variable uniforme, ça va être la loi de distribution exponentielle. Donc, la probabilité que x, ma variable aléatoire exponentielle, soit inférieure ou égale à x, c'est cette intégrale, donc je la calcule. Et puis, je cherche t tel que t de x soit égal à x. Donc, je peux remplacer x par t de u. J'ai supposé que t était inversible. Donc, je peux inverser ceci. Je calcule. Donc, comme u, c'est une variable aléatoire uniforme, c'est juste l'intégrale de l'indicatrice de 0,1. Et j'obtiens ceci. Donc, à partir de là, j'obtiens que t-1 de x doit être égal à 1 moins exponentielle moins x. Je calcule et j'obtiens ceci. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Pour implémenter ma variable aléatoire exponentielle, ben, je vais commencer par échantillonner ma variable aléatoire uniforme et puis je vais la donner à ma transformation d'inversion. Bon, alors si vous n'avez rien compris, c'est pas grave parce que maintenant je vais faire que du discret. Et donc un exemple d'algorithme probabiliste qui va trouver une solution plus rapidement, presque sûrement, qu'un algorithme déterministe. Donc on prend une fonction f qui va des entiers dans les entiers et on cherche un 0. Donc un 0 qui va être compris entre 0 et n. Donc un entier k tel que f de k est égal à 0. Donc, et on va supposer que f est, enfin, qu'il existe un 0. Alors, donc ça c'est un algorithme qui va échantillonner une variable aléatoire uniforme sur 0n, discrète, qui va regarder si f elle vaut 0 sur cet entier k. Si oui, il renvoie cet entier, et puis sinon, il recommence. Alors, donc s'il existe un 0, alors ce programme il va terminer presque sûrement sur un entier k qui est un 0 de f. Alors pourquoi ? Alors supposons que f elle admette z0. Donc je note z le nombre de 0 de f. Alors, quelle est la probabilité que ce programme, Las Vegas, il termine en une étape ? Ben, ça va être le nombre de 0 sur les entiers dans lesquels je regarde, 0n. Donc ça va être z sur n. Quelle est la probabilité que mon programme, Las Vegas, termine en p étapes ? Ben, il faut qu'il échoue p moins une fois. Donc ça, c'est avec probabilité 1 moins z sur n puissance p moins 1. Et puis qu'il réussisse une fois, c'est avec probabilité z sur n. OK ? Donc maintenant, quelle est la probabilité que mon algorithme Las Vegas termine en un nombre quelconque d'étapes ? Donc qui j'ai mis success parce que je m'en fiche un petit peu finalement de quel indice il me ressort, c'est juste que ce soit l'indice d'un zéro. Donc la probabilité que Las Vegas termine sur un succès, ça va être la somme des probabilités qui terminent en une, deux, un nombre quelconque d'étapes. Et ça, c'est une géométrique, donc la somme c'est égal à 1. Alors, donc je vous ai dit qu'on prenait PCF, et puis on lui rajoute ce coin. Donc maintenant, quelle est sa sémantique opérationnelle ? Donc c'est toujours une sémantique en appel par nom. Ici, je vais étiqueter mes transitions par la probabilité que j'ai de réduire de... Donc par exemple, pour la bêta réduction, je vais réduire lambda x m n avec probabilité 1 vers m dans lequel j'ai substitué x par n, toutes les occurrences de x par n. Le coin, il va se réduire vers 0 avec probabilité 1/2 et vers 1 avec probabilité 1/2. Et puis, je suis toujours en appel par nom, c'est-à-dire que le passage au contexte dans l'application, c'est que à gauche. Alors, il y a la sémantique opérationnelle qui est par ces transitions pondérées, mais aussi, on peut aussi la présenter comme une matrice de transition, parce qu'on peut voir les programmes comme des processus qui vont évoluer. Donc ici, prob, c'est une matrice stochastique. Donc elle va être indicée par les termes, par les programmes. Et prob m, m', ça va être la probabilité que m se réduise en m'. Donc elle va se réduire avec probabilité. Ça va être égal à p si m il se réduit vers m' en une étape avec probabilité p. Ça va être égal à 1 si m est normal, enfin c'est, on ne peut plus le réduire. Et m est égal à m'. Et puis, dans tous les autres cas, ce sera 0. Alors, maintenant, passons au volet sémantique. Il y a deux approches à la sémantique des programmes probabilistes. Il y a d'abord dans le style monadique. Donc ça, il y a d'autres travaux avant, mais c'est une des premières fois où on le formalise comme la monade probabiliste. Ce travail par Jones et Plotkin. Donc, on va donner une sémantique dénotationnelle à l'effet probabiliste grâce à une monade. Donc, ça, c'est ici, je vous ai représenté la monade qui va me prendre l'interprétation d'un type et qui va me produire l'ensemble des distributions de probabilité sur les valeurs qui apparaissent dans ce type. Alors maintenant, un programme probabiliste, par exemple m, de type int/int, il va être dénoté par une fonction qui prend des entiers en entrée et qui va me ressortir une distribution de probabilité. Alors, on peut se poser la question maintenant, si mon entrée est probabiliste, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bind de la monade, et qui va correspondre à cette construction, let n égale x in m, un opérateur de mise en mémoire. Pourquoi? Parce que, alors ici, j'ai une distribution de probabilité, une variable aléatoire. Et comment est-ce que je vais calculer la distribution de sortie? Ça va, pour savoir avec quelle probabilité je vais obtenir Q, ben, le programme M, il va demander à la variable aléatoire quelle est ta valeur. La variable aléatoire va lui répondre ma valeur c'est N avec probabilité XN. Le programme va récupérer cette valeur N et va calculer Q avec probabilité M indice NQ. Alors ici, on a une sémantique qui est typiquement pour l'appel par valeur. Pourquoi ? Parce que je calcule une fois, le programme va demander une fois à la variable aléatoire quel entier tu me donnes, et il va l'utiliser ensuite pour calculer sa sortie, il va utiliser cet entier autant de fois qu'il veut, sans reconsulter la variable aléatoire. Alors on a une autre approche qui est pour la sémantique des langages probabilistes, qui est dans un style plus direct. Donc, ce sont les espaces cohérents probabilistes qui ont été définis par Girard et puis ensuite Danos et Erard ont montré que c'était un modèle de logique linéaire et de PCF probabiliste. La logique linéaire, je reviendrai dessus plus tard. Alors, les espaces cohérents probabilistes, dans les espaces cohérents probabilistes, on va interpréter un type par une paire, la trame de l'interprétation de A, ça va être un ensemble de valeurs élémentaires. Donc typiquement pour les entiers, ça va être l'ensemble des entiers. Et puis on va avoir un ensemble de vecteurs probabilistes qui vont être des suites de réels positifs qui vont être indexés par ces valeurs élémentaires. Donc typiquement pour les entiers, ça va être une suite indexée par n de réels positifs tels que la somme est inférieure ou égale à 1. Donc c'est une loi de distribution sur les entiers. Alors pourquoi, c'est une sous-distribution de probabilité, c'est une distribution de... Bon bref, la somme elle est inférieure à 1 parce que je garde un petit peu de poids à donner à la divergence. Ok. Donc maintenant, comment est-ce qu'on interprète un programme? Un programme de type par exemple inflashInt, il va être interprété par une fonction qui va me transformer les vecteurs probabilistes. Et cette fonction, elle va avoir la tête d'une série. Donc ça va être important pour la suite. Alors, donc on peut comprendre cette représentation, ces morphismes, cette interprétation des programmes de la façon suivante. Donc mon programme M, il prend toujours une distribution de probabilité en entrée. Et puis, pour calculer la probabilité qui me renvoie Q, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander, à chaque fois qu'il va avoir besoin de son entrée, il va aller voir la variable aléatoire et il va lui dire quelle est ta valeur. Donc, la première fois, il va lui répondre ma valeur est N1 avec probabilité XN1. Puis, la deuxième fois qu'il va aller le voir, il va lui répondre N2 avec probabilité XN2, et etc. NK avec la probabilité XNK. Je vais faire le produit de toutes les probabilités que ma variable aléatoire me renvoie successivement N1, N2, NK. Et puis, je vais faire un multi-ensemble de toutes les valeurs qui ont été renvoyées par tous les résultats qui ont été renvoyés par la variable aléatoire. Donc, je vais avoir ce multi-ensemble N1, NK. Ce sont les valeurs qui vont être utilisées par M pour calculer Q. Et donc, il va le calculer avec la probabilité M indice, ce multi-ensemble et Q. Puis ensuite, on va faire la somme sur toutes les possibilités que ma variable aléatoire me renvoie k valeurs. Donc ici, ce qu'on a, c'est une sémantique pour l'appel par nom. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que M a besoin de son entrée, il va aller recalculer, redemander à la variable aléatoire quelle est la valeur qu'il lui donne. Alors, on a des résultats qui sont plutôt agréables pour cette sémantique. Bon, déjà, on a le théorème d'invariance de la sémantique, donc ça, c'est nécessaire. Et puis, dans le cas probabiliste, il prend une forme qui est un petit peu originale. C'est on n'a pas exactement l'égalité quand on a réduction, mais on va tenir compte de la probabilité que M se réduise en M'. Donc, la sémantique de M, c'est égal à la somme de la sémantique de ces réduits pondéré par la probabilité que M se réduise en M'. Alors, on a aussi le lemme d'adéquation qui nous dit que la sémantique de M, bah, sa énième coordonnée, c'est exactement la probabilité que M se réduise en N dans ma sémantique opérationnelle en un nombre quelconque d'étapes. Donc ça, je l'ai utilisé plusieurs fois avant dans les intuitions que je donnais. Et alors, ce qui est chouette ici, c'est qu'on a ce théorème, le théorème de pleine adéquation, on l'a pour les espaces cohérents probabilistes et PCF. Et donc, ce théorème de pleine adéquation, il s'exprime de la façon suivante. Deux programmes ont la même sémantique, si et seulement si, dans n'importe quel contexte, et pour n'importe quelle valeur, donc là j'ai mis 0, mais on pourrait mettre, en changeant un peu le contexte, on peut obtenir n'importe quelle valeur, la probabilité que M dans le contexte C se réduise en 0 est égale à la probabilité que N dans le contexte C se réduise en 0. Donc ils ont exactement le même comportement. Alors, savoir que deux programmes ont exactement la même probabilité de réduction, c'est un petit peu idéal, mais en tout cas... Parce que ça veut dire qu'on sait calculer un réel exact. Enfin, bon, bref. En tout cas, on a cette propriété ici qui est quand même agréable. Pourquoi ça marche? Parce que les programmes, ils sont interprétés par des séries. Alors, ici, je ne vous ai pas explicité pourquoi est-ce que c'est une série. Parce que ici, on va avoir un monôme de 2 degrés K avec le coefficient ici. Alors, c'est une série un petit peu particulière parce qu'elle peut avoir une infinité de paramètres. Tous les coefficients qui apparaissent ici dans ma variable aléatoire, donc c'est une suite infinie, ils apparaissent ici dans ma série. Et donc, c'est cette propriété d'analyticité qui va me permettre d'avoir la pleine adéquation. Alors, ça, c'est la preuve. Je vous donne juste une petite esquisse. Alors, déjà, il y a un sens qui est facile. C'est s'ils ont la même sémantique, alors ils ont le même comportement. Ça, c'est une conséquence directe du lemme d'adéquation et du fait qu'on a la compositionnalité. Mais alors, pour la réciproque, c'est un petit peu compliqué. Et donc, on va supposer qu'ils n'ont pas la même sémantique. Donc, je vous rappelle, la sémantique d'un programme, c'est une suite indexée par les valeurs. Donc, s'ils n'ont pas la même sémantique, ça veut dire qu'il existe une valeur sur laquelle ils diffèrent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des tests qui va nous permettre de les distinguer. Et ce test, il dépend uniquement de la valeur sur laquelle il diffère, de A. Il ne dépend pas de M et de M'. Et puis, ce test, il va avoir des paramètres. Des paramètres, et il va nous falloir trouver les valeurs des réels qu'on va substituer à ces paramètres pour que ce test il soit bien dans notre langage. Alors, ce qu'on remarque, c'est que quand on applique test à n'importe quel terme, test A à n'importe quel terme, on obtient une série formelle qui a un nombre fini de paramètres et que l'un des monomes de cette série, il est proportionnel à ce coefficient, NA. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que quand j'applique test A à M, j'obtiens une série dont l'un des monomes est proportionnel à MA. Et puis quand j'applique test à M', j'obtiens une série dont l'un des monomes est proportionnel à M'A. Puis bien sûr, c'est le même monôme. Et deux séries qui ont des monomes différents, ce sont des séries différentes. Et deux séries formelles qui sont différentes, elles diffèrent aussi au voisinage de zéro. Et donc, grâce à cette propriété, on va trouver des réels qu'on va pouvoir substituer aux paramètres pour que notre test il soit dans notre langage. Donc, ce qu'on obtient, c'est que quand j'applique test à M et à M', eh ben, j'obtiens deux séries qui sont différentes. Et donc là, il nous reste à conclure juste par adéquation. Cette sémantique-là, c'est la probabilité que test appliqué à M se réduise vers un entier. Et cette sémantique-là, c'est la probabilité que test appliqué à M' se réduise vers un entier. Et j'ai conclu. Donc, cette propriété-là d'être interprétée par des séries, elle est vraiment fondamentale pour avoir la pleine adéquation. Alors, on est super content, on a une super sémantique, mais on a quand même eu quelques soucis, qui est qu'on aimerait bien avoir un opérateur de mise en mémoire. Donc, c'est bien pratique, typiquement pour le programme que je vous présentais tout à l'heure, qui cherche un zéro d'une fonction des entiers dans les entiers. Ben, on commence par échantillonner notre variable aléatoire uniforme sur 0n. Si je veux faire ça en PCF probabiliste, je vais utiliser un point fixe. Bon, ça, c'est une tentative qui va échouer. Je vais utiliser un point fixe et puis pour la récursion. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir mon uniforme sur 0n. Je vais utiliser cette fonction pour l'avoir. Mais je suis en appel par nom. Donc, quand je réduis ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller remplacer chaque occurrence de k par mon uniforme. Donc, je vais avoir une uniforme n ici, uniforme n ici. Et puis, quand je fais mon échantillonnage, ici, je peux trouver un 0 de f. Et puis ici, je peux renvoyer un autre entier. Donc, ce n'est pas très pratique. Alors, on pourrait imaginer faire plein de choses, des CPS, etc. Mais je ne sais pas si c'est compatible avec les probabilités. Et puis, on a envie de programmer dans un style direct. Surtout qu'en fait, on peut le faire. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est un petit peu de concilier l'appel par valeur et l'appel par nom. Et donc, dans les années 90, Krivine propose d'utiliser cet opérateur de mise en mémoire pour concilier un petit peu les deux. Alors, je pense que ces idées, elles étaient déjà là, mais c'est à un endroit où c'est formalisé. Alors, en sémantique notationnelle, l'opérateur de mise en mémoire, donc si on pense toujours dans le cadre probabiliste, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que d'échantillonner M une fois pour toutes, qui nous disent « je te renvoie K avec probabilité M indice K », et puis de fournir ce résultat K à mon programme N en lui donnant autant de copies que nécessaire. Alors, en termes de ressources, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de calculer la valeur de retour de M, puis de l'utiliser autant de fois qu'on veut, soit l'effacer, soit la copier. En termes sémantiques, si on regarde la sémantique de l'abstraction appliquée à M, je vais obtenir cette formule-là. Et ici, on avait des réponses différentes de M. Quand on demande à M sa valeur, il peut nous renvoyer des valeurs différentes. Donc on aimerait bien avoir quelque chose pour pouvoir le faire une seule fois et puis copier l'entier K autant de fois qu'on veut. Et donc ça, on peut le faire en composant avec une fonction copy qui me prend un entier k et qui va me fournir des multi-ensembles avec autant de copies de k que je veux. Et ce qui est agréable, c'est que en fait, cette fonction, elle existe dans les espaces cohérents probabilistes. Et donc, on peut prendre notre syntaxe et puis rajouter cette construction qui existe déjà dans la sémantique. Ça va être fait par l'opérateur de mise en mémoire. Alors, on va lui donner une sémantique opérationnelle. Donc, let k égale n in n, il va être réduit avec probabilité 1 vers n dans lequel je remplace toute occurrence de k par n. Et puis ici, je vais avoir la réduction. Je vais pouvoir réduire dans let k égale m in n uniquement m. Je ne peux pas réduire n. Alors, comme je disais, on a déjà une sémantique pour la mise en mémoire et on garde les bonnes propriétés de notre modèle. Les espaces cohérents probabilistes sont pleinement adéquats pour cette extension de PCF. Okay, bon, ça pose quand même question. Ok, ça marche pour les entiers, mais alors pour quel type je peux avoir cet opérateur de mise en mémoire? Et donc, ce dont on a besoin ici, c'est d'effacer, d'utiliser et de dupliquer des ressources. Et ça rejoint la problématique du séminaire de Guillaume Munch-McAnony du 19 décembre, qui s'appelait « Peut-on dupliquer un objet ?» qui utilisait le même type de questionnement. Alors, avant de passer à la suite et d'utiliser la logique linéaire pour répondre à cette question, je voulais juste essayer d'attaquer cette question qui est finalement à quoi ça sert la sémantique dénotationnelle. Alors, j'emprunte un exemple à Sam Staton qui se demande comment est-ce qu'on peut montrer l'équivalence observationnelle de ces deux programmes qui sont des programmes dans un langage probabiliste. Et donc typiquement, M, on peut le voir comme la simulation d'une distribution et N aussi. Donc, je commence par échantillonner M, puis j'échantillonne N et puis je donne les valeurs que j'obtiens à P. Est-ce que c'est la même chose que d'échantillonner d'abord n, puis m, donc j'ai échangé les deux premières lignes, et de donner les résultats AP. Donc en sémantique opérationnelle, on va avoir un petit peu de difficulté, surtout si M et N, ils ont des variables libres, mais on va pouvoir s'en sortir, mais il va falloir fournir un petit peu d'huile de coude. Par contre, en sémantique dénotationnelle, c'est très rapide, en utilisant le théorème de Fubini. Alors, donc là, la sémantique du let, c'est avec une somme. Donc, quand j'interprète A, je vais d'abord faire la somme sur les échantillonnages de M, puis la somme sur les échantillonnages de N, puis j'ai la sémantique de P. Pour B, je commence par échantillonner N, puis j'échantillonne M, puis j'ai P. Et tout ça, ce sont que des coefficients positifs. Donc, je peux échanger les sommes comme je veux. Et donc, j'ai que la sémantique de A est égale à la sémantique de B. Et donc, j'ai juste à appliquer le théorème d'adéquation qui me dit que si deux programmes ont la même sémantique, alors ils se comportent de la même manière dans n'importe quel contexte. Ils sont observationnellement équivalents. Donc, ça peut être une des utilités de la sémantique dénotationnelle. Alors, je reviens à ma question. Pour quel type je vais pouvoir avoir cet opérateur de mise en mémoire? Quand est-ce que je vais pouvoir dupliquer, effacer? Et pour ça, je vais utiliser une approche basée sur la logique linéaire. Alors, donc, une brève introduction à la logique linéaire. Elle a été introduite par Girard, qui a fait une analyse sémantique d'un modèle qu'il avait proposé pour le système F. Donc ce modèle, c'est les espaces cohérents. Et dans ces espaces cohérents, il s'aperçoit que l'interprétation du type flèche admet une décomposition naturelle. A flèche B, ça peut être écrit à l'aide d'une exponentielle qu'on écrit point d'exclamation et d'une flèche linéaire. Puis ensuite, il va travailler à réconcilier la logique classique, sa symétrie, avec la logique intuitionniste et le côté constructif. Et donc, dans ces deux logiques, en présence de l'affaiblissement et de la contraction, on a deux présentations du « et ». Une présentation multiplicative, dans laquelle on va prendre les deux contextes, et une présentation additive, dans laquelle on demande à ce que les deux contextes soient les mêmes. Et donc, ce que propose Girard, c'est de séparer ces deux présentations, avoir un « et » qui va être multiplicatif, qu'on va noter tenseur, et un « et » qui va être additif, qu'on va appeler « with », avec. Alors, et puis, on va restreindre l'application des règles structurelles, l'affaiblissement et la contraction, seulement aux formules qui sont marquées d'un point d'exclamation, de l'exponentielle. Alors, pourquoi l'exponentielle? Parce qu'on a cette équivalence logique, cet isomorphisme logique entre point d'exclamation A, tenseur point d'exclamation B et point d'exclamation de A avec B, qui est très similaire à ce qu'on a pour l'exponentielle. Et la multiplication des deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Alors, ça a aussi un contenu calculatoire, qui est que ici, ce type flèche, il me dit, donne-moi quelque chose de type A, une entrée A, et puis je vais te renvoyer une entrée de type B. Et comment est-ce qu'on peut lire cette décomposition? On peut la lire de la façon suivante. Donne-moi autant de copies de l'entrée de type A que nécessaire, et je te donnerai une sortie de type B. Donc en logique linéaire, on va faire très attention à quelle formule on peut copier, effacer, etc. Donc ici, je vous présente juste le fragment multiplicatif que je vais utiliser plus tard. Donc on a l'introduction de la flèche linéaire, son élimination, le tenseur. Et puis on a le fragment exponentiel. Donc on a l'affaiblissement et la contraction dont je vous parlais. Et puis on va aussi avoir un relèvement et une co-unité. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ça fait référence à la sémantique catégorique qu'il y a derrière. Et donc, vous trouverez une très belle description de cette sémantique dans ce panorama de Paul-André Méliès. Donc, l'exponentielle, elle est axiomatisée de la façon suivante. J'ai une comonade avec donc la co-unité et la co-multiplication. Et puis, je vais avoir une structure de comonoïde qui va me permettre d'effacer et de dupliquer. Et puis, pour retrouver la flèche, on va avoir un encodage qu'on dit en appel par nom et on reviendra dessus après. Alors, si on regarde dans les espaces cohérents probabilistes, qu'est-ce que c'est l'exponentielle ? Donc, la trame, les valeurs atomiques de ce type-là, ça va être des multi-ensembles finis d'entiers. Et puis, les habitants, les vecteurs probabilistes de ce type, ils vont être engendrés par des x points d'exclamation, où x, c'est un vecteur de ce truc-là. Donc x, c'est une distribution de probabilité sur n, et puis je vais lui appliquer cette exponentielle. Alors comment je calcule ça ? Donc c'est un vecteur qui est indicé par des multi-ensembles, infini, et donc la probabilité que ce x point d'exclamation me renvoie k1, kn, eh ben, c'est égal au produit des probabilités que x me renvoie k1, k2, kn. Alors, on retrouve ce terme-là qui apparaissait dans la sémantique que je vous présentais. Et puis aussi, on peut remarquer qu'en fait, on s'en fiche un petit peu de l'ordre dans lequel ça va nous renvoyer k1, kn, parce que ce qui est important, finalement, c'est avec quelle probabilité ça nous le renvoie. Alors, donc, je vous rappelle ma question, c'est je veux savoir quand est-ce que je peux faire un opérateur de mise en mémoire et quand est-ce que non, je peux effacer et dupliquer. Et donc, une observation de Thomas Herra, c'est que on peut effacer et dupliquer quand on a une coalgèbre. Donc, c'est donné par un objet P et puis un morphisme de P dans point d'exclamation P. Et ce qui se passe, c'est que toute coalgèbre a une structure de commonoïde. Ça veut dire tout simplement qu'on peut effacer, on peut dupliquer. En particulier, l'exponentielle donne une structure de possède cette structure de coalgèbre. Donc, quelle construction préserve les coalgèbres ? Alors déjà, on va avoir 1 qui va nous donner une coalgèbre, point d'exclamation qui va nous donner une coalgèbre, et puis après, on va remarquer que le tenseur, le plus, et puis le point fixe de type, va préserver les coalgèbres. Et donc, on retombe sur les types positifs de la logique linéaire. Ce n'est pas étonnant, puisque tout ça était inspiré par la logique linéaire classique, dans laquelle on a une différence entre les types positifs et les types négatifs. Et ici, on va s'intéresser qu'aux types positifs. Alors, première chose, les entiers. On a vu tout à l'heure que pour les entiers, on pouvait effacer, dupliquer. On retrouve pourquoi ? Parce qu'en fait, les entiers, ce sont des types positifs qu'on va construire avec un point fixe et puis cet opérateur plus. Et on peut aussi encoder d'autres types comme des streams paresseuses, donc ou qui sont évaluées à la demande. Donc là, avec un point fixe, et puis on va avoir la tête et puis la suite de la stream qu'on ira calculer si on en a besoin. Donc l'exponentielle, ici, on voit que ça va stopper l'évaluation. Alors, donc, comme je disais, cette approche est inspirée par la logique linéaire polarisée. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est que les types positifs. Donc, on va s'intéresser à un fragment de la logique linéaire polarisée. Donc ça, c'est une logique. On a la flèche linéaire, on a le tenseur, on a l'exponentielle. Et puis, on va lui appliquer un coup de curé au ward et on va obtenir un nouveau langage. Bon, alors en fait, c'est pas tout à fait un nouveau langage, puisqu'en fait, on tombe sur le call-by push-value qui avait été introduit par Lévy, qui voulait mélanger call-by-name, call-by-value. Et donc, je vais vous décrire un petit peu ce langage. Donc, on a l'abstraction qui va nous donner des flèches linéaires. On va avoir une application linéaire. On va avoir des paires qui vont avoir le type tenseur. Pourquoi ? Parce que ce sont des types positifs. Et on va avoir la projection. Et puis, on va avoir ce mécanisme qui va nous permettre d'enfermer un terme dans une boîte, de le considérer comme une valeur, et puis d'ouvrir les boîtes et de pouvoir continuer une exécution. On va rajouter d'autres termes pour pouvoir avoir un langage un peu plus expressif, donc des points fixes de termes, du pattern matching, et puis des constructions pour les points fixes de type. Alors, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est une extension probabiliste de ce langage. Donc, en résumé, dans Call by Push Value probabiliste, on va avoir des types positifs. Ce sont ceux pour lesquels on va pouvoir dupliquer, effacer, avec notamment le unit et puis l'exponentielle. Puis on va avoir des types généraux, avec notamment la flèche linéaire, donc tous les types positifs et puis la flèche linéaire. Et puis au niveau des programmes, on va avoir certains programmes qui vont être des valeurs, donc typiquement l'unique élément de unit, mettre un terme dans une boîte, geler son exécution, les paires de valeurs, une right et une left de valeurs. Et puis, dans les programmes, on va avoir en plus l'application, l'abstraction, les projections et puis le match. Alors, juste une remarque, c'est que dans le typage de ce langage, tous les contextes, ils sont avec des types positifs. Parce qu'on a envie de pouvoir copier et effacer, de dupliquer et d'effacer les variables du contexte. Alors, la réduction de ce langage. Donc ça devient intéressant. Donc c'est une stratégie en appel par valeur. Je ne vais pouvoir appliquer la bêta-réduction que quand j'ai une valeur à droite. Ici, on a le mécanisme d'ouverture des boîtes. Et ici, on a un pattern matching qui va mémoriser la valeur qu'il a lue. Donc je vais regarder si V elle est à gauche ou à droite, et puis je vais me souvenir de sa valeur pour aller substituer XI par la valeur V que j'ai lue. Alors au niveau des probabilités, je vais pouvoir passer au contexte à gauche. Si M se réduit vers M' avec probabilité P, alors l'application de M à V se réduit toujours avec probabilité à l'application de M' à V. Je vais pouvoir passer au contexte à droite. On est bien en appel par valeur. Et puis, dans le force. Alors, pourtant, tout à l'heure, je vous ai dit, on est en train d'encoder la flèche en appel par nom. Alors pourquoi est-ce que ce langage va s'accommoder de l'appel par valeur et l'appel par nom? Alors la première remarque à faire, c'est que ici nos valeurs ne sont pas des fonctions. D'habitude, quand on parle appel par valeur, les valeurs sont des fonctions. Ici, non. Les valeurs, donc si on regarde les types des positifs, les types des valeurs, qu'est-ce que je peux avoir comme... Ça va être des arbres, avec des tenseurs et des plus. Et puis les feuilles, ça va être l'élément de type unit, où ça va être des boîtes dans lesquelles on a mis des termes, des programmes dont on a gelé l'exécution. Donc, quand je peux encoder PCF dans ce langage, l'encodage du type, ça va être point d'exclamation A flèche B, l'encodage de la logique linéaire, on appelle par nom, et puis ce terme-là, quand j'applique une abstraction à un terme N, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me débrouiller pour avoir des variables de type point d'exclamation. Et puis, je vais lui passer une boîte, mon programme, dont l'exécution a été gelée et qui est donc devenue une valeur. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que si j'ai un programme qui est appliqué, il faut penser ici toujours, je suis en probabilité. Donc N, typiquement, c'est une distribution de probabilité. Donc quand je vais effectuer la réduction d'un programme comme ça, je vais aller copier ma distribution de probabilité plusieurs fois, par exemple coin, et puis à chaque fois que je l'évalue, je peux avoir des valeurs différentes. Mais j'ai aussi la possibilité d'avoir cet opérateur de mise en mémoire qui va me permettre d'échantillonner une fois une variable aléatoire et puis après d'aller la copier. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on peut encoder PCF dans probabilistique call by push value. Donc, les types de PCF, on a besoin d'encoder int, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis on a besoin d'encoder la flèche, donc avec cet encodage en appel par valeur. Et puis, pour la syntaxe, pour l'abstraction, on va avoir cet encodage, et pour l'application, donc, on gèle l'exécution. Pour les entiers, le 0, il est à gauche, le successeur, il est à droite. Pour encoder le if, je vais utiliser le pattern matching. Et pour encoder mon opérateur de mise en mémoire, je vais utiliser ce case qui permet de mémoriser. Donc, je vais regarder quelle est la valeur de M. Si c'est 0, je vais lui donner à N la valeur 0, remplacer K par 0 partout. Et puis, si c'est un successeur, je vais me souvenir de quoi c'était le successeur. Donc, si c'était N plus 1, je vais fournir à N N plus 1 partout. Et puis, ce qui est important de remarquer ici, c'est que cet opérateur de mise en mémoire, il va dépendre de la structure du type de la valeur que je regarde. Donc ici, j'ai le type des streams paresseux. Pour récupérer la tête de la stream, je vais l'encoder en fonction de mon type. Donc ici, je vais devoir faire la projection. Donc ça va être plutôt... oui, ça va être pi 1. Et puis, je vais forcer M, je vais ouvrir la boîte dans laquelle M est mis. Donc, j'ai mis le point d'exclamation au mauvais endroit, il devrait être ici. Alors, on revient à la sémantique dénotationnelle. Est-ce que j'ai des bonnes propriétés ici? Alors, en fait, on a montré que les espaces cohérents probabilistes sont toujours un modèle, en particulier, c'est un modèle de la logique linéaire. Donc, on avait bon espoir que ce soit un modèle de push-value probabiliste, et c'est le cas. Et on a toujours... nos théorèmes, l'invariance de la sémantique, le lemme d'adéquation. Alors là, il a fallu un petit peu travailler quand même pour le lemme d'adéquation. Donc, utiliser pas mal des propriétés des coalgèbres, utiliser des relations logiques et puis du step indexing. Et puis, on a toujours le théorème de pleine adéquation et la preuve est similaire, avec quelques difficultés à surmonter, mais c'est la même idée. Alors, pour aller un peu plus loin des directions de recherche, ici je vous ai parlé uniquement principalement de programmation probabiliste discrète. C'est-à-dire qu'on a étudié plutôt des programmes qui vont simuler des variables aléatoires discrètes. Il y a tout un pan de recherche actuellement pour modéliser des probabilités continues. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de langages fonctionnels qui apparaissent avec comme application les probabilités et statistiques. Donc, en statistique, ils ont besoin de modèles pour calculer, pour échantillonner leur modèle. Et donc, pour modéliser les modèles bayésiens, ils utilisent, plutôt que de redéfinir tout à chaque fois, ils utilisent un langage de programmation. Ils vont écrire leurs modèles comme des programmes. Et donc, Church, Anglican, etc., c'est utilisé en informatique statistique et en machine learning. Et donc, dans ces langages fonctionnels, ils ont des types récursifs, ils ont de l'ordre supérieur et ils ont des distributions de probabilités continues. Alors ça posait un petit problème parce que c'est difficile de faire une catégorie cartésienne fermée qui capture la théorie de la mesure. Donc, notamment, si on regarde la catégorie des espaces mesurables et des noyaux, ben, ce n'est pas cartésien fermé. Donc, pour avoir de l'ordre supérieur, ça posait quelques soucis. Donc, c'est que récemment qu'il y a eu plusieurs travaux pour avoir une sémantique dénotationnelle qui permette de faire ça. Donc, des travaux dans le style direct, donc dans le même style que les espaces cohérents probabilistes, et puis des travaux dans le style monadique, qui ont été faits à Oxford. Alors, il y a quand même des questions qui restent à traiter ici, même si on a quelques modèles maintenant, c'est qu'on ne sait pas si on a la pleine adéquation et on ne sait pas si on a une décomposition à la logique linéaire. Donc, pour avoir la pleine adéquation, tout à l'heure, on utilisait beaucoup le fait qu'on ait des séries. Et le fait qu'on ait des séries, c'est lié au fait qu'on a un modèle de la logique linéaire et de l'exponentielle. Donc, pour avoir la pleine adéquation, une idée, ce serait de commencer par décomposer l'un de ces modèles, enfin, ce modèle-là en logique linéaire, et de voir si on peut faire quelque chose. Alors, une autre idée, ce serait de dire, on a une sémantique dénotationnelle qui peut nous dire des choses sur les programmes. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour certifier des programmes avec un assistant de preuve ? Alors, il y a d'autres directions de recherche, toujours dans la même ligne, qui est qu'il y a des nouvelles primitives qui apparaissent dans ces approches. Parce qu'en inférence bayésienne, on ne va pas regarder toutes les traces d'exécution. on va faire du conditionnement, on va regarder que certaines traces d'exécution et puis renormaliser. Donc pour ça, on utilise des nouvelles primitives comme score. Alors score, ce que ça fait, c'est que ça va pénaliser certaines exécutions d'un programme probabiliste. Et puis, on va utiliser infer. Ben, une fois qu'on a pénalisé certaines exécutions, on n'a plus une distribution de probabilité et on a envie de la renormaliser. C'est ce que va faire infer. Et donc, on va... une des choses à faire, c'est de comprendre à la fois sémantiquement, opérationnellement, quelle est la bonne façon de faire ces scores et ces infer. Et puis, je voulais aussi vous signaler une branche de la programmation réactive qui est développée par Guillaume Baudard, Louis Mandel et Marc Pouzet, donc à IBM et à l'UNS, qui est d'étendre langages de programmation réactive comme ReactiveML et Zelus avec ce pan de la programmation probabiliste et de l'utiliser du coup pour faire de l'apprentissage sur des modèles des systèmes physiques. L'exemple typique, c'est le CARD-POL. Il y a une barre qui est sur un chariot, un modèle physique qui nous dit quand est-ce que ça tombe, et puis on va apprendre avec les expériences, en simulant cette expérience, on va apprendre quels sont les bons paramètres pour équilibrer cette barre. Voilà. Et donc, c'est la fin de mon exposé. Je vous remercie.